devront peut-être fouiller.
Tous les dimanches, c'est à 20h10,
c'est... Oh, mais t'aimes ou t'aimes pas ?
Le masque et la plume.
Excuse-moi !
Allez. Jérôme Garcin.
On va y venir.
C'est un petit peu ça, quoi.
Littérature.
Non ?
Comme il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup de petits points de suspension.
Cinéma.
Moi, je trouve que vous avez tort.
Théâtre.
J'ai trouvé.
Je te prie, même.
N'en fais pas trop.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la plume,
écrivez vos emails.
Oui. Non.
Rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter et France 4 présentent Ben.
Je l'ai vendu la télé du salon à un copain.
Actuellement au Théâtre Le Temple.
Pas de bol, mon père s'en a aperçu. Écoute papa, je ne vois trop quand tu me tires par les cheveux, mais vas-y, je t'écoute. Ah tu vois, qu'est-ce que t'as foutu de la télé, tout ça? Alors moi je lui fais, aïe, attention, tu me gifles là.
Retrouvez Ben dans les émissions de France Inter.
Ah si, attends, maintenant que tu m'étrangles, ça commence à me revenir.
Et sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Salut, journée banale, normale, du travail, levé 5h15, rentrée maison 18h, douche, change, passe chez un copain pour une paye de salaire, 20h15, retour à la maison, repas, coup de suite de boulot, et puis après, radio en sourdine, lecture des tentes, et tout d'un coup, Isabelle Balkany battue. Alors là, je dis à ceux qui se lèvent tôt, te salue, casse-toi, pauvre con, c'était Dédé à Quimper, et merci pour ceux qui ont écrasé Madame Balkany, ça fait du bien, et j'espère que je vais passer de bonne nuit. Salut.
Bravo, bravo pour votre émission sur le développement durable, le greenwashing. Je vous conseille d'aller traîner vos guêtres et vos micros au mois de juin au Salon du Bourget, ou depuis quelques années au Salon du Bourget, c'est-à-dire matériel d'armement, aéronautique et compagnie, donc tout ce qui pollue un maximum en fabrication et en pendant la vie du produit et en démantèlement. Tout est vert depuis quelques années. Les stands, il y a de la moquette verte, il y a des fleurs vertes, il y a des bambous, tout est vert. Les présentations sont vertes, les affiches sont vertes, c'est écolo, c'est green, voilà, c'est... La vie, c'est green. Voilà, ciao.
Bonjour à tous les Algériens et également à tous les Portugais qui n'ont pas de veine. C'est pas de bol pour eux. Ils ont tellement vécu au-dessus de leurs moyens que maintenant, il va falloir, selon les recommandations du FMI et de notre ami Dominique, eh bien, vendre le pays pièce par pièce à des intérêts privés. Voilà comment on dépossède un peuple de sa plus grande, de son plus grand bien, sa patrie finalement. On va la vendre en petits bouts pour rembourser le niveau de vie énorme dans lequel ont vécu tous ces Portugais profiteurs. Et bien voilà, merci le FMI. Et ça, c'est une mesure qui fait que l'on vend un pays, on le rackette en quelque sorte, et on le vend à des intérêts privés, mafieux, financiers, avec l'accord du FMI. Eh bien bonjour, ça c'est démocratique comme organisme. Salut, c'était Jeff à Chambéry.
Bonsoir à tous. Eh ben c'est pas pour dire, mais je vais le dire quand même. Bravo Johnny et respect. Quand j'entends cette voix, ben les autres ils me font bien rigoler quand même. Je les aime bien les autres. Mais respect Johnny. Bravo.
Bonjour, le Premier ministre, M. François Fillon, a appelé un audit de la filière nucléaire française sur 5 points. Les risques d'inondation, de séisme, de perte des alimentations électriques et de perte de refroidissement, ainsi que la gestion opérationnelle des situations accidentelles. Je voudrais savoir, pourquoi faut-il attendre un accident majeur pour que soient vérifiés des points aussi essentiels pour la sûreté? N'est-ce pas un aveu ici, que les contrôles réguliers ne sont pas effectués ou bien qu'ils sont même insuffisants? Je voudrais aussi poser la question des conditions de travail des travailleurs chargés de la maintenance, qui reconnaissent n'être plus en mesure d'assurer la sûreté des centrales en France du fait de pressions trop élevées pour expédier leur travail au plus vite, ou tout simplement pour des questions de coûts. Le 31 mars, à 9h, au tribunal de grande instance de Rouen, un procès sera mené auprès d'un salarié d'Indel. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux, tous, pour venir soutenir ce salarié qui met en danger sa santé aux côtés de beaucoup d'autres pour que nous puissions avoir un minimum de sûreté en France. Et malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et bonjour Daniel, je réagis à ton émission « Qui a tué l'écologie ?».
Il est bon de savoir que Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Michel Rivasi, Europe Écologie et Les Verts ont voté le 25 novembre 1999 une résolution en faveur du nucléaire au Parlement européen. Ce jour-là a été adoptée cette résolution dans laquelle on trouve le point suivant à la ligne 36. Alors j'ouvre les guillemets. Souligne que le passage à l'échelle internationale à une économie à faible intensité de carbone conférera à l'énergie nucléaire un rôle important dans le bouquet énergétique à moyen terme. Souligne toutefois que les questions relatives à la sûreté et à la sécurité du cycle du combustible nucléaire doivent être abordées de façon adéquate à l'échelle internationale afin de garantir un niveau de sûreté aussi élevé que possible. Voilà, il y a seul José Bové qui s'est abstenu. Ciao.
Bonjour, comme j'espère que Daniel pourra contacter M. Thierry Salomon et lui parler des très pertinentes remarques d'une auditrice, je voudrais ajouter une autre question. J'ai sous les yeux le résumé du scénario de Negawatt de 2003 qui me semble être tout à fait dans une optique productiviste. Effectivement, il parle d'économie d'énergie, mais il prévoit surtout des économies financières. Et il prévoit à l'époque, en tout cas, pas de sortie du nucléaire avant 30 ans. Donc ce sont encore des constats vraiment économistes et financiers, et pas du tout une critique du monde productiviste qui est le grand coupable dans cette histoire. Ce scénario Negawatt investit beaucoup dans le renouvelable, et j'étais un petit peu étonnée d'entendre Thierry Salomon l'autre jour, donc je voudrais simplement savoir si entre 2003 et 2011, ce qui est tout à fait possible, il a évolué dans son analyse. Merci d'avance pour les réponses apportées à ma question. Je vous embrasse tous. À lundi.
Merci pour ces messages, chers AMG. Pour ce dernier message particulièrement, en effet, vendredi, une auditrice a laissé un message dans la boîte vocale de la base où j'y suis au sujet de cet entretien avec Thierry Salomon, animateur de Negawatt, avec un N comme dans négation, Negawatt, une association qui regroupe un nombre de chercheurs, d'experts qui se penchent sur les questions de l'énergie. Et effectivement, cette auditrice disait, j'apprends en regardant le site de Negawatt qu'il y a une collaboration avec WWF, alors que la veille avec Fabrice Nicolino, Fabrice Nicolino a complètement démoli WWF. Eh bien c'est vrai, on a appelé Thierry Salomon, lui a dit alors, il a dit ah oui mais c'est vrai, Negawatt a des participations de WWF dans son action, de même avec d'autres associations ou ONG. Voilà, et c'est comme ça que nous fonctionnons. Voilà la réponse qui a été la sienne. Nous, là-bas, j'y suis, notre intention était d'essayer de comprendre et donc par là même tenter de vous faire comprendre les questions d'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie aujourd'hui, puisqu'il s'agit de sortir du nucléaire, oui, mais comment? Et puis, quelles sont les autres énergies? Et il nous semble toujours que la démarche de Negawatt, qui est de partir des besoins et non pas de la production, c'est déjà en soi quelque chose de révolutionnaire par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes, et qu'il y a un lien indéniable entre la démarche de cette association, disons, et puis... des grands soucis l'écologie qui furent les soucis d'un André Gorz ou de ceux de la gueule ouverte du début des années 70, même si voilà rien n'est toujours aussi pur et brave qu'on le voudrait. Dont acte. Aujourd'hui, donc, on retrouve Noam Chomsky. Mais oui, Noam Chomsky était de passage à Bruxelles la semaine dernière, les 15 et 16 mars. Chomsky, depuis 2 ans, voyage énormément. Il est devenu un voyageur planétaire. Il arpente la planète. Après le Moyen-Orient, la Chine, la Turquie, qui il est. Voilà, il se balade beaucoup et partout, il continue ses analyses et sa critique radicale de la politique extérieure de son pays, même aussi la politique intérieure. Il fait un grand panorama de la situation mondiale telle qu'il la voit et telle qu'elle bouge en permanence. Et puis, il répond aux questions que la foule, vient lui poser. Il y avait beaucoup de monde pour le voir et pour l'entendre et pour lui poser des questions. À Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, le 15 mars, et ensuite au Théâtre de Bruxelles, le 16 mars, où il était en compagnie de Normand Baillargeon et Jean Bricmont. Donc, voilà une interview qui nous a... consacré en exclusivité pour la Basse Si J'y Suis. On va aborder avec lui tout un tas de problèmes d'actualité. Et Dieu sait si l'actualité est riche en ce moment, avec en tête une phrase de Chomsky: dans une société bien huilée, on ne dit pas ce que l'on sait, on dit ce qui est utile au pouvoir.
Amis des betteraves du Gâtinais, le repère de Tousson, village sud-Seine-et-Marne, vous invite à débattre sur le thème de l'eau pure, des nappes phréatiques du bassin parisien non fracturé. Avec comme illustration le film d'Elif Karakartal, L'eau qui nous fait vivre, en présence de la réalisatrice. Ce repère aura lieu le mercredi 30 mars à 20h, au dernier café du village, à la tête des trains, place de l'église à Tousson, entre Milly-la-Forêt et Malesherbes. Bienvenue à tous de la part de Christine, Philippe et Pierrot.
Ouais, je voudrais laisser un message pour tous ceux qui écoutent l'émission et ne sont pas encore franchi le pas de créer près de chez eux un repère de là-bas si j'y suis. Peut-être que beaucoup d'entre vous s'imaginent qu'il faut des thèmes particuliers, des gens qui savent, ou être nombreux, avoir une grande salle, enfin voilà. Sachez que nous, au repère de là-bas si j'y suis de Montauroux, hier, on était une quinzaine. Et on a parlé pendant 3 heures de ce qui nous tient à cœur, ce qui nous passe dans la tête, toutes ces informations, ce qui en ressort. Est-ce que ça nous motive pour agir? Est-ce que ça nous démobilise parce qu'on ne peut rien faire? On a parlé avec autant des jeunes d'une vingtaine d'années que des plus vieux qui avaient passé les 60 ans. Et puis ça s'est très bien passé. On a fait ça pendant 3 heures tranquillement avec un petit rayon de soleil. C'était très sympa, on était en terrasse. On n'a pas refait le monde, mais chacun s'est exprimé, chacun a pris la parole, chacun a dit ce qu'il révolte et ce qui lui donne du baume au cœur pour agir demain contre les gages de schiste ou la façon dont chacun perçoit ce qui se passe en Libye ou ailleurs. Voilà, c'était pour dire merci à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, merci à Daniel Mermet, parce que c'est grâce à ton émission que ces moments-là existent. Ciao, vive, portez-vous bien.
C'est pour annoncer la prochaine rencontre des AMG de Beauvais-sur-Descou dans le Tarn. Ce sera vendredi 1er avril, non ce n'est pas un poisson, à 20h30 au restaurant aux Tartines. Conférence débat ce coup-ci sur quelle fiscalité pour quelle justice sociale. Il n'y a pas de société sans impôts, donc il ne peut pas y avoir de société juste sans impôts justes. Au revoir les amis.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil, là-bas si j'y suis, avec le professeur Noam Chomsky à Bruxelles.
Flight number 2, arriving from New York.
Une première question qu'on ne peut pas ne pas vous poser, c'est ce qui se passe au Japon actuellement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce qui se passe au Japon ?
It's a horrible catastrophe, of course.
C'est une catastrophe horrible, bien entendu.
It's still going on. We don't know how great it'll be.
Ça continue encore. On ne sait pas jusqu'à où ça va aller.
Everything should be done to try to help Japan overcome this latest disaster. Of course, there's inescapable irony involved. Japan's, of course, the one country that was ever attacked with nuclear weapons.
Il y a une ironie indescriptible dans tout ça, justement, de voir que le Japon est le seul pays qui était victime d'une attaque nucléaire et qui doit faire face à ça aujourd'hui.
The United States has a unique responsibility to try to do something about this.
Et les États-Unis ont donc une responsabilité première à intervenir pour trouver une solution à tout ça.
Du côté français, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, puisqu'on a un pays qui est très nucléarisé. Il y a un mouvement assez fort chez nous qui en ce moment se manifeste et qui est de dire il faut sortir du nucléaire. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi, sur lequel vous avez un point de vue? Il y a pas mal aussi d'énergie nucléaire utilisée aux États-Unis.
Well, my own feeling all along, and I've split from many of my friends and associates on this, is that my feeling is that the issue of nuclear energy is a technical issue, not a moral issue.
Ma position vis-à-vis de l'énergie nucléaire, c'est que c'est un débat technique, pas un débat moral. Ce en quoi je me suis distancé de pas mal de mes collaborateurs et de mes amis.
I mean, my own feeling is that the weight of argument is probably against it, but the point is it's a technical argument. It's an argument about handling nuclear wastes, about dangers such as this one, and of course about relative costs and benefits. There are some benefits to nuclear energy.
C'est vraiment une question d'un rapport coût-bénéfice dans lequel se pose, c'est-à-dire en question technique. Qu'est-ce qu'on fera des déchets radioactifs? Quels sont les risques encourus à cette pratique?
In the longer term, and I don't think it's very long, there should be a substantial effort to move towards safe and secure and renewable energy resources, which probably means mainly solar energy.
Et je pense que dans un futur proche ou un futur moyen, on va se tourner nécessairement vers des ressources propres et renouvelables, et principalement l'énergie solaire. Mais je voudrais vraiment insister que je n'ai pas de jugement fondé indépendamment sur ces questions-là.
On a un courant en France, que vous avez sans doute également aux États-Unis, qui est l'idée d'une décroissance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ?
Don't really think much of that. I mean, I think there are alternative paths of development, which from some point of view might be called de-development. So, for example, a reduction of excessive use of energy. I wouldn't call that de-development. It's a different form of development.
J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je sais qu'il y a des voies alternatives de développement qui passeraient par exemple à moins de gâchis en énergie, mais je pense pas qu'on puisse appeler ça non plus de la décroissance ou du, comment dire en anglais, du dé-développement.
For example, I think it could lead to a much better life. Yeah, I think it might very well if it's done properly.
Mais je pense bien sûr que si c'est fait de manière correctement, ça pourrait nous mener à une vie bien meilleure.
Et voilà, là. Conversation commence avec Noam Chomsky. Il est arrivé avec son vieux pull et son vieux jean. Et c'est 83 ans dans cet hôtel luxueux de Bruxelles pour répondre à nos questions. On comprend tout de suite que Chomsky ne se prend pas pour un spécialiste du nucléaire, mais tout immédiatement, c'est quand même face à cette question-là le rationaliste qui répond et qui se méfie de tout ce qui, dans ces débats sur le nucléaire comme sur l'énergie, relève de vieilles croyances extrêmement anciennes dont nous sommes si souvent les proies inconscientes. On discute aussi, bien sûr, de la catastrophe de Fukushima, qui ressemble à un désastre dans lequel les entreprises soutenues par l'État ont une très lourde responsabilité. En 1986, Tchernobyl avait précédé la chute du mur de novembre 89, de 3 ans. On avait d'ailleurs en partie attribué à l'époque la chute du mur à Tchernobyl, qui représentait à ce moment-là toute l'horreur communiste et soviétique. 25 ans après, Fukushima représente probablement l'équivalent, mais dans la version capitaliste, de l'horreur. Pour vous en persuader, je vous conseille la lecture du quotidien Le Monde, daté de dimanche et lundi, où on apprend le sacrifice des liquidateurs, qu'on appelle pompeusement des pompiers, mais qui sont des braves types qui vont y laisser leur peau, avec un supplément de 15 euros de prime par jour. Et pourquoi est-ce qu'ils s'en vont pas? Pourquoi est-ce qu'ils prennent pas les gens à leur coup pour se sauver? Bien simplement parce que TEPCO, l'usine, enfin l'entrepreneur, fait travailler des sous-traitants en cascade comme ça, et que ces liquidateurs sont des employés d'une entreprise sous-traitante. Et la menace de TEPCO, c'est de dire: si vos gars ne restent pas là, par la suite, vous n'aurez plus de marché. Donc, les entreprises astreignent leurs salariés pour un supplément de 15 euros par jour à rester dans la centrale ou aux alentours de la centrale au risque de leur vie. On est dans la plus brutale inhumanité dans cette région du monde comme dans d'autres. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes avec Noam Chomsky jusqu'à 16h. Dans la Bastille, j'y suis.
This is a show for the population. And in my view, that's not the way democracy works. Because I think it's very peripheral in terms of almost denuded of meaning.
Have you heard about Chomsky?
Look out.
Like Lemmy and Motorhead.
Come on.
Like Joey Ramone.
It's down.
Angus and his SG.
Chomsky.
Chuck and Bobby Kennedy.
Yeehaw.
A hero from a galaxy.
Good guy.
Freedom knows no boundary.
Cool.
A total intellectual.
Intense.
A neglected intellectual. It's
down. Down. No, no, no. Chomsky, 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 Chomsky. No, no, no.
Floods of propaganda.
Do you know what's happening?
Mama.
He doesn't know what's happening.
Papa.
He doesn't know what's going on.
Don't
die. They pay for the weapons.
Don't
pay. Buy the yellow ribbon.
Hey, no.
Teach the nation.
Hey, no.
Teach the children.
We feel.
What you're here for.
Explode.
A world of murder.
And how?
No, no, no.
Chomsky, 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 no.
Professeur Chomsky, on est très heureux de vous retrouver ici à Bruxelles. Je voudrais que vous nous parliez du printemps arabe, de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye et d'une façon générale dans le monde arabe. Comment vous avez perçu ça?
The major one is in Egypt. I think it's an event. These are events of historic importance.
La principale, le plus important, c'était en Égypte. Je pense que c'est vraiment des événements d'ampleur et de signification vraiment historique.
And whatever the outcome is, by no means certain. But whatever it is, it's going to definitely leave a very important legacy. Even if the current wave of protests is restricted or maybe even beaten back, it'll create a background that the next uprising will be able to use as a basis and go forward. There's been a major break. There's no doubt of that.
Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a eu une avancée majeure qui a été faite. Et même si on ne connaît pas les suites immédiates que ça aura, ça fera un terreau pour d'autres mobilisations, d'autres soulèvements à venir, même si on ne sait pas si aujourd'hui, dans un futur proche, cette révolution va donner suite ou pas.
I might mention, and it's particularly important for France, that the current wave of uprisings, which is not new, it has a background, but the current wave actually began in Western Sahara, which was conquered by Morocco 35 years ago. It's a UN-administered territory. It was supposed to move towards decolonization. There's been a very brutal occupation.
Et je voudrais insister aussi sur cet aspect qui peut intéresser le public français, c'est que vraiment la première prémisse de ce soulèvement dans le monde arabe a commencé dans le Sahara occidental et la situation coloniale que subit ce pays depuis plus de 35 ans sous colonisation du Maroc.
There was a major non-violent protest last November, which was broken up by Moroccan troops. There was an approach to the United Nations for an inquiry. It was blocked by France, which is the protector of Morocco.
Il y a eu en novembre dernier un soulèvement dans les camps de réfugiés au Sahara occidental, qui a été réprimé par les forces marocaines, et une demande de commission d'enquête des Nations Unies qui a été bloquée par les autorités françaises en particulier.
Comme d'habitude, les médias ont présenté la révolte en Tunisie, et puis en Égypte, et puis en Libye. Pour l'instant, on est sur ces trois sujets-là, comme des surgissements, des événements, comme ça, sans tellement éclairer les causes ni ce qui les a préparés. Comment ces événements arrivent-ils, selon vous ?
Well, take Egypt, for example, the most important country. In Egypt, the uprising, the January 25th uprising, was initiated by a group of fairly young people, tech-savvy young people, who call themselves the April 6th movement.
Prenons par exemple le cas de l'Égypte, qui est l'élément le plus important. Le soulèvement qui a commencé le 25 janvier était principalement le cas de jeunes éduqués qui se sont revendiqués comme le mouvement du 6 avril.
Why April 6th? Well, the reason is that in April 6th, 2008, there was a major labor action planned for the biggest industrial complex in Egypt, the Mahalla textile conglomerate, and it was broken up by force.
Parce que justement, c'est un 6 avril 2008 qu'il y avait une grande mobilisation syndicale dans le complexe et le combinat de l'industrie textile égyptienne et qui a été réprimée par la force.
And that was only one of a series of militant actions violently suppressed by the dictatorship and strongly backed by the Western powers.
Et c'était qu'un exemple des nombreuses mobilisations qui ont été réprimées par la dictature, cette même dictature qui était activement soutenue par les puissances occidentales.
Shortly after that, President Obama went on his famous trip to Cairo, and on the way, when he was asked whether he would criticize the authoritarian regime in Egypt, he said no. He said Mubarak is a good man doing good things. I'm not going to criticize him.
Et par exemple, quelque temps après, Barack Obama a fait sa tournée en Égypte et on lui a demandé s'il critiquait le gouvernement. Il dit non, je ne soutiens ce gouvernement de Hosni Moubarak, qui est quelqu'un de bien, qui fait les bonnes choses.
He wasn't quite as extreme as Tony Blair, who made similar comments right in the middle of the uprising.
Il n'est peut-être pas allé aussi loin que Tony Blair, qui lui a fait le même genre de commentaires, mais alors même que les émeutes avaient lieu.
That's more or less like the French minister who went to Tunisia for her vacation right in the middle of the uprising. Yeah.
Là, c'était plus proche de Michel Alemari, cette ministre française, qui est allée en vacances en Tunisie en plein milieu du soulèvement.
Comme toujours, on se dit les États-Unis sont derrière tout ça. Les États-Unis ont autorisé Ben Ali à partir. Les États-Unis ont demandé à Moubarak de partir également. Quel est le rôle des États-Unis dans tout ça?
Well, the actual role is very straightforward and has nothing to do with these inventions. Obama did exactly what he said. Namely, he supported Moubarak. Supported them all the way to the end. Till the very end.
Son rôle a été très direct et il n'a pas varié d'un iota tout au long, c'est-à-dire un soutien absolu jusqu'à la dernière minute.
At the very end, when the uprising really couldn't be controlled any longer, he sent an emissary to Mubarak, a man named Frank Wisner, who in fact was a lobbyist for Mubarak, and who ended his visit by saying that Mubarak ought to stay. That was right at the peak of the uprising. A little bit later, it became evident that there was no way to control the uprising, and Mubarak would have to go. So Obama said, yes, Mubarak has to go.
Même à la dernière minute, Barack Obama a envoyé un émissaire en Égypte, un dénommé Wisner, qui n'était autre que le lobbyiste des intérêts de Hosni Moubarak aux États-Unis, et qui a déclaré que Moubarak devait rester jusqu'à la fin. Et ce n'est qu'à la dernière extrémité, quand il n'était vraiment plus possible de le soutenir, que Obama a envoyé le message disant « Ok, il faut qu'il parte ».
Furthermore, this is completely familiar. It happens over and over again. There's probably a dozen cases in the last few decades when it's become impossible to support some favorite dictator. The same procedure is followed every time. Support him right up to the end. If he can't hang on any longer, send him somewhere. talk about your love of democracy and try to restore the old system.
Mais c'est une vieille ficelle qui a servi peut-être une douzaine de fois au cours des dernières décennies, soutenir la personne en place jusqu'au dernier moment, et puis quand il est vraiment trop exposé, le faire partir, le lâcher, et dire qu'on est toujours en train de soutenir les valeurs de la démocratie.
This is boringly similar.
Ça n'est tellement répétitif que c'en est ennuyeux.
Alors...
Maintenant, on est dans quelle situation après ce départ de Moubarak en Égypte? On a l'impression qu'on est en train de... L'Égypte est en train d'illustrer la phrase célèbre que tout change pour que rien ne change.
I mean, the army is in control, of course. The army is deeply embedded into the previously existing regime, into the economy, the political system, and so on. And they're certainly, the high command is certainly going to try to sustain their dominant power.
Bien entendu, les militaires sont toujours en place et les militaires sont impliqués au plus haut point dans le précédent gouvernement, mais aussi dans l'appareil politique et économique. Ils vont donc essayer de garder leur emprise autant que possible.
On the other hand, there are very significant changes. So the press is quite free. The labor movement is much more militant than before. In that same plant where the April 6th events were crushed, the workers are now taking over and operating the plants. There's a level of freedom and a freedom that didn't exist before. They've destroyed the major security service, although a new security service has just been instituted. But these are changes that I don't think can be reversed.
Mais en même temps, il y a eu des changements très importants sur lesquels on ne pourra pas revenir aussi facilement. Par exemple, la liberté de la presse, aussi le renouveau syndical. Par exemple, cette même usine textile dont je parlais a été réouverte et dirigée par ses propres ouvriers. Aussi, la police politique qui a été dissoute, même si elle est déjà en train de renaître de ses cendres.
La grande surprise dans cette affaire a été de découvrir que les islamistes, les épouvantables islamistes, qu'on pouvait tout à fait parler avec eux, qui n'étaient pas aussi menaçants. Cette révolution arabe est en fait aussi une défaite idéologique pour tous ceux qui, pendant toutes ces années, ont défendu ces dictatures en disant « elles sont des remparts face au terrible islamisme ».
I mean, that was such an inconceivable pretext that it's amazing that anyone believed it for a minute.
C'était un prétexte tellement absurde et inconséquent que c'était même incroyable de voir que les gens y aient cru.
The United States and Britain have been the strongest supporters of radical Islamic extremism for decades.
Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont été les principaux soutiens des radicaux extrémistes musulmans pendant des décennies.
The center of radical Islam and of even a funding of jihadis is Saudi Arabia, which is their closest, strongest ally.
Le centre et le principal financier de l'islamisme radical, c'est justement un de leurs principaux alliés dans la région, à savoir l'Arabie Saoudite.
They have almost always supported radical Islam as a barrier against what they're really afraid of, independent secular nationalism.
Et ces pays ont toujours soutenu un islamisme radical comme étant un rempart à ce qu'ils craignent vraiment, c'est-à-dire une force politique nationaliste séculière démocratique.
I mean, the most dramatic illustration of this was U.S. relations with Israel.
Et l'exemple le plus dramatique de ça, c'est les relations des États-Unis avec Israël.
Those relations reached their current state in 1967, when Israel performed a major service to the West. It defended radical Islamism, namely Saudi Arabia, against secular nationalism, namely Egypt.
Et ça a commencé en 1967, quand Israël a rendu un service extraordinaire aux puissances occidentales en soutenant l'islamisme radical, à savoir l'Arabie Saoudite, contre une politique arabe sécularisée qui était l'Égypte.
I continue with this, but it's very general and very well established.
Je pourrais continuer là-dessus, mais c'est vraiment des faits qui sont bien établis et avérés.
I mean, Mubarak, the Western friend and ally, he had pretty much destroyed or marginalized secular forces. So the one independent force that remained was Islamist.
Et Hosni Mubarak, l'allié des Occidentaux, avait proprement éliminé toutes les forces d'opposition possibles au sein de son pays. La seule qui subsistait, c'était à travers le prisme de l'islamisme.
But a secular nationalist independent force would be much more of a threat than the Muslim Brotherhood.
Mais c'est vrai qu'une force politique nationaliste séculière aurait été une menace bien plus importante que les frères musulmans pour lui.
People like Nasser, for example, were talking about taking over the resources of the region and using them for the Arab population and not for the West and for rich, super rich traditional families. And that's a threat.
Des gens comme Nasser, par exemple, parlaient de nationaliser les ressources énergétiques de la région pour qu'elles bénéficient en premier lieu aux populations arabes et non pas aux riches étrangers qui en profitaient.
Voilà, avec Noam Chomsky à Bruxelles, en effet, c'est des pages de l'histoire qui mériteraient d'être creusées et développées jusqu'à la guerre des six jours en juin 1967. Nasser représentait, était la figure centrale du nationalisme arabe et laïque et qui entendait contrôler et redistribuer les ressources en Égypte et dans les pays arabes, ce qui évidemment ne plaisait guère aux Occidentaux, notamment aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire, comment l'Angleterre et les États-Unis ont instrumentalisé et soutenu l'islam radical. Il faut rappeler que les Frères musulmans ont été créés en 1928 en opposition à l'occupation britannique de l'Égypte, mais ensuite il y a eu toutes sortes d'instrumentalisations des Frères musulmans et de l'islamisme, par notamment par Washington. Vous avez un papier qui a été dans le New York Review of Book qui traite de ce sujet d'une façon tout à fait passionnante et qui raconte comment, depuis les années 50, les États-Unis ont secrètement mis en place des alliances avec les Frères musulmans ou ses dérivés sur des questions aussi diverses que la lutte contre le communisme et pour calmer les tensions parmi les musulmans européens. Et c'est la guerre des six jours, en 1967, qui a mis un terme à ce projet nassérien du panarabisme qui visait à ce que les pays arabes vivent de leurs propres ailes, si on peut dire, et surtout de leurs propres ressources.
Les diverses mesures de nationalisation qui ne sont allées qu'en augmentant sans cesse ces derniers mois
TSR
ont été plutôt mal jugées à l'étranger.
28 janvier 1962.
Comment justifiez-vous ces nationalisations et qu'en attendez-vous?
Nasser, président de la République d'Égypte.
Dans notre pays, nous avons souffert de la colonisation, du féodalisme, de la domination capitaliste. C'est pourquoi on nous appelle pays sous-développé.
That's why we were called underdeveloped country. After the revolution, which began by 1952,
après la révolution qui a commencé en 1952, nous avons commencé un plan de développement du pays afin de doubler notre revenu national. Maintenant, nous avons l'intention de doubler encore notre revenu au cours des 10 prochaines années. Si un pays comme le nôtre veut atteindre ses buts, il lui est impossible de travailler lorsque toute la richesse du pays est entre les mains de 2 ou 3% de la population et que les autres ne gagnent rien. Je crois que c'est la seule façon par laquelle un pays insuffisamment développé peut se développer. Libérer les gens de la féodalité, leur donner la liberté, leur accorder leurs droits, les libérer de la domination capitaliste représentée par quelques personnes, dont quelques-unes sont corrompues, c'est cela la nationalisation. Nationalisation signifie que tous les biens nationalisés sont entre les mains du peuple et sont gérés par le peuple.
Un document qui date de 1962, je le disais, en 1967, la guerre des six jours mettait un terme à ce projet politique, et c'est l'Arabie saoudite qui devenait le centre, on peut dire, la représentation du monde arabe avec ce lien avec les États-Unis et cette capacité de propager l'islamisme quand c'est nécessaire, comme un moyen de trouble et de chaos. Et actuellement, ce que nous vivons, cette révolution arabe, ce printemps arabe, comme on veut, va à l'encontre de cela. D'abord, montre que cet islamisme n'est pas aussi périlleux et aussi terrorisant qu'on a bien voulu le dire durant ces années, et que ces avancées démocratiques vont changer probablement en partie la donne dans la région. On est avec Noam Chomsky, qui est très pointu sur la question du Proche-Orient, et nous dialoguons à Bruxelles. C'était le 16 mars dernier. Israël, très longtemps, les gouvernements israéliens successifs ont défendu leur politique en disant « Nous sommes une villa dans la jungle ». Israël, c'est un tout petit îlot de démocratie et de civilisation cerné par une jungle barbare. Aujourd'hui, cette jungle barbare est en train de se démocratiser, bouge. Qu'est-ce qui bouge dans cette région? Est-ce qu'on assiste à un changement de l'ordre régional? Dans quelle mesure?
Well, the fact of the matter is almost the opposite. In 1971, Egypt offered a full peace treaty to Israel. Full peace treaty, everything, in return for withdrawal from the occupied territories, and this was Sadat, and what he really cared about was withdrawal from the Sinai.
Mais c'est exactement l'inverse qui se passe. En 1971, Sadat, au nom de l'Égypte, a proposé une paix et un règlement définitif avec Israël en échange d'une évacuation des territoires occupés et ce qui tenait le plus à cœur à Sadat, la restitution du Sinaï.
Israel had a choice at that point. They had a choice between security and expansion. If they had accepted Sadat's offer, their security would have been guaranteed.
Et Israël avait un choix à cette époque-là. Le choix entre l'expansion ou la sécurité. Et si on avait fait le choix de règlement avec Sadat, Israël aurait garanti sa sécurité.
The expansion at that time was mainly into the Sinai, where they were planning to build a big city, a lot of settlements and so on. That's Egyptian territory. Well, they chose expansion over security. They rejected the offer.
Ils ont rejeté l'offre, choisissant l'expansion plutôt que la sécurité. Et l'expansion en question, c'était de s'installer, de construire des villes et des implantations à travers tout le Sinaï.
The question, as always, was what's the United States going to do? They're the master of the system.
Et la question qui se pose toujours, c'est que veulent les États-Unis, puisqu'ils sont les maîtres du jeu.
There was an internal debate in Washington. It was won by Henry Kissinger, whose position was no negotiations, only force.
Et il y a eu des négociations à Washington, et c'est finalement Kissinger qui a raflé la mise, et sa position était pas de négociation.
Only force.
Pas de négociation, uniquement la force.
That was a fateful decision. I won't run through the rest of the history, but it's approximately the same. Israel can have security. It has chosen expansion, backed by the United States. And that's not unusual. Contrary to the principles of international relations theory, states very commonly regard security as not the highest priority. They undertake measures which harm security for other motives.
Et c'est le choix qu'a fait Israël, qui est le choix qui portait un poids pour l'avenir, c'est-à-dire choisir l'expansion plutôt que la sécurité. Et d'ailleurs, si on regarde à l'échelle des relations internationales, c'est souvent les choix qui est fait par les nations plutôt que de garantir la sécurité qui est vu comme une ambition mineure, toujours promouvoir d'expansion et des dérèglements qui peuvent porter après à conséquence.
Actually, the invasion of Iraq is a good example.
L'invasion de l'Irak en est par exemple un très bon exemple.
We now know from the British inquiry from other sources that both Britain and the United States anticipated that the invasion of Iraq would lead to a sharp increase in terrorism.
Quand on voit les recherches par exemple, on voit que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient prévu que les opérations militaires sur le territoire irakien provoqueraient une augmentation du terrorisme.
Which in fact happened. It went up by about a factor of 7 in 1 year.
Et c'est effectivement ce qui a eu lieu puisque les actes terroristes ont été multipliés par 7 au bout d'un an seulement.
But protection of the population is just not a high priority for states. There are higher priorities.
Pour les États, la protection des populations civiles n'est pas la priorité numéro 1. Il y a toujours des priorités plus importantes.
The only thing, the two things that can block state violence, the external situation. So, for example, if European allies refuse to go along with this, that would have an effect. But the main effect has to be internal to the imperial power. That's where constraints come from on imperial violence.
Bah, les deux choses qui pourraient avoir un effet sur ça, c'est ou que les puissances occidentales, européennes en particulier, refusent de soutenir ce projet, mais sinon, c'est toujours dans les populations que peuvent venir les éléments qui bloquent ou qui font surgir la violence contre l'ordre dominant.
And in Europe, the political class, you know, the decision-making class, supports the United States, so there isn't going to be any barrier there. And the question turns to what will European populations do?
Et par exemple, pour ce qui est de la classe dominante, la classe politique européenne, elle soutient majoritairement ce que fait les États-Unis. Donc après, la mesure, c'est qu'est-ce que les populations européennes auront à dire face à ça?
Ce que les populations européennes ont à dire, au moins une toute petite partie, c'est l'organisation d'un boycott contre les produits, non pas israéliens, mais fabriqués dans les colonies israéliennes. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez, que vous pensez efficace?
Actually, I was involved in it before the so-called BDS movement even crystallized.
Mais j'étais impliqué là-dedans avant même que ce mouvement BDS commence à vraiment prendre de l'importance. J'étais déjà impliqué là-dedans.
And I think it ought to go way beyond that.
Et je pense que ça devrait même aller au-delà.
So, for example, Amnesty International called for an arms embargo on Israel because it's using the arms that are provided by mostly the United States, but also Europe, in violation of international law.
Par exemple, Amnesty International appelle à un boycott des livraisons d'armes à Israël, puisque d'après elle, beaucoup des armes qui sont fournies par les Européens, mais surtout par les États-Unis, sont utilisées en violation du droit international.
Human Rights Watch was a pretty conservative organization, recently called on Europe to ensure that nothing is done to support operations in the occupied territories, and specifically not to import goods from there. Europe is one of the major importers.
Et par exemple, Human Rights Watch, qui est une association plutôt conservatrice, a récemment appelé les Européens à ne pas intervenir dans les opérations qui portent atteinte aux populations dans les territoires occupés, et surtout à ne pas acheter des produits produits dans les territoires occupés, alors que l'Europe est justement un des plus gros clients.
I should say that, and again, this is particularly for France, the same should be done with regard to Morocco. That's the other major military occupation in violation of international law, going back decades.
Et je devrais dire aussi une autre chose qui concerne particulièrement la France, c'est que les mêmes mesures devraient être prises au sujet de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, qui est l'autre cas d'occupation coloniale dans la région.
Revenons un peu au monde arabe et parlons de la Libye. À l'heure qu'il est, Kadhafi est en train de reprendre le pouvoir et les rebelles sont en train de reculer Pouvez-vous avoir votre sentiment déjà sur ce qui se passe en Libye en général?
Well, it's clear what's happening. I mean, yes, it's as you described. I mean, the Libyan forces have taken the offensive. The U.S. intelligence predicts that they'll restore control over Libya. They're probably correct. And the question is, what should the reaction be?
Ce qui est en train de se passer, on est assez d'accord là-dessus, c'est que même les rapports de renseignement américains prédisent que le pouvoir central va reprendre le contrôle de ces zones. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire?
Quelle intervention, oui. Faut-il intervenir et de quelle façon?
First, we ought to think a little bit about the background.
D'abord, il faut mettre en perspective un peu.
There are several. Libya is one of a few states that produces oil. It's the one case where the West has no particular commitment to the dictator. I mean, they support him, but no special commitment to him.
La Libye est un des rares pays qui produit du pétrole, mais où les puissances occidentales ne sont pas mouillées avec le dictateur.
In every other major oil producer, the West strongly supports the dictators who, in fact, are violently suppressing protests.
Parce que dans tous les autres cas, les puissances occidentales appuient et soutiennent activement les dictateurs qui souvent oppriment ces populations.
Saudi Arabia,
l'Arabie Saoudite.
There was a planned day of rage last Friday, and there was such a powerful police military presence that not one person showed up in Riyadh.
Il y avait par exemple une manifestation programmée en Arabie Saoudite pour la liberté. Et il y a eu une telle mobilisation policière que personne ne s'est présenté à cette manifestation.
Same thing happened in Kuwait.
La même chose a eu lieu au Koweït.
Et aussi en Algérie.
And right now, Algeria is another case. And right now in Bahrain, which is crucial for Saudi Arabia, Saudi Arabian forces have invaded to crush the uprising. And just a few hours ago, the military presence there has enabled the Bahraini government to drive the protesters out of Pearl Square, the central area of protest, and out of the hospital where they had taken refuge.
Et par exemple, pour prendre l'exemple de Bahreïn, où l'Arabie Saoudite a envoyé ses troupes militaires pour pouvoir aider les autorités bahreïnites à déloger les manifestants qui occupaient la place de la Perle et d'aller les poursuivre jusque dans l'hôpital où ils s'étaient repliés.
There's no talk about military intervention in these cases because the West openly supports the repression.
Et il n'y a pas été question d'opérations militaires occidentales dans ces cas-là puisque ces gouvernements sont activement soutenus par les puissances occidentales.
There was no talk about a no-fly zone when U.S. Planes bombed Tunis and Benghazi in 1986. There was no talk about it when the Israeli Air Force, with the help of the United States, bombed Tunis in 1985. That was fine.
Il n'a pas été question de faire de zones d'exclusion aérienne quand les avions américains ont bombardé Tunis ou ont bombardé Benghazi en 85 ou quand les Israéliens, avec l'aide des Américains, ont aussi attaqué les installations de l'OLP en Libye en 86.
There was no call for a no-fly zone when Israel, with U.S. support, was carrying out massacres in Gaza 2 years ago.
Il n'a pas été question de zone d'exclusion aérienne il y a 2 ans de ça, quand l'Israël a massivement bombardé, avec l'appui des États-Unis, Gaza.
Well, so we should put aside any faint belief that there's some issue of principle involved.
Il faudrait vraiment mettre de côté toute illusion que c'est une affaire de principe qui est à l'œuvre ici.
That still leaves the question: should there be intervention to support the rebellion in Libya?
Après, ça laisse ouverte la question, est-ce qu'on doit intervenir pour soutenir la rébellion en Libye?
Un de nos auditeurs disait, pourquoi est-ce que vous ne suggérez pas qu'il y ait des brigades internationales qui viennent soutenir les rebelles libyens?
An international brigade.
Yes.
Well, that also elicits memories. This elicits memories of my childhood.
La suite demain, ce n'est pas les brigades internationales qui sont intervenues, comme vous le savez. Cet entretien, c'était la semaine dernière, c'était le 16 mars dernier. On retrouvera Noam Chomsky demain dans La Base si j'y suis. Traduction Guy Vanctil. Merci à toutes et à tous. Les informations sont sur le site de France Inter, la rubrique émission La Base si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire vos commentaires. La même chose sur labas.org, la-bas.org, la technique. Aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Basile Bocquer, c'est Coyen Guyenne et Franck Allerer qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot, et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de La Base si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Prends cette offre.
Mais si, ça c'est bien.
J'avais des projets de travaux de chauffage et d'isolation.
Mais fais pas ça, t'es fou.
Tout le monde avait un avis, et moi, je ne savais pas quoi choisir. Alors j'ai appelé un conseiller EDF Bleu Ciel. Il m'a conseillé efficacement en m'aidant à faire les bons choix afin de rendre mon habitat plus économe en énergie. Tout simplement.
Appelez le 3929, 5 centimes TTC la minute, hors surcoût éventuel selon opérateur. Ou rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Préfonds retraite.
Allô, le 3025? Dites, je suis dans la fonction publique et je m'inquiète au sujet de ma retraite. Je voulais savoir, c'est quoi cette histoire de rente à vie? C'est possible, même avec mon salaire?
Préfonds vous répond au 3025, appel gratuit ou sur préfonds-retraite.fr.
Préfonds retraite.
Complémentaire et nécessaire.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson. Arthur, l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Ben, regarde un peu devant toi, appuie sur le champignon.
Un concentré technologique unique au monde pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Maman!
Au Futuroscope, découvrez Arthur, l'aventure 4D, l'attraction préférée des visiteurs. Toute l'année, le séjour Parc plus Hôtel est à partir de 49,50€ par personne.
Futuroscope.
Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
Arrêter, c'était pas si simple. Surtout après tant d'années.
Quand on est dedans, on se rend pas compte. Au final, l'addition est lourde.
Mais à deux, c'est quand même plus facile d'arrêter.
Vous aussi, arrêtez de banquer. Chez Fortunéo.fr, la banque en ligne moins chère, les cartes bancaires sont gratuites et pas seulement la première année. En ce moment, 60€ offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Alors pour arrêter de banquer, tapez Fortunéo.fr.
Et oh, Fortunéo.
Offre sous conditions disponible sur Fortunéo.fr.
Eh oui, demain 15h pour La Base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Nicolas Sarkozy tente de reprendre la majorité en main au lendemain du second tour des élections cantonales. Devant les responsables de l'UMP, le président de la République a mis en garde ceux qui voudraient mettre en cause l'unité de sa famille politique. Une attaque qui visait implicitement les radicaux de Jean-Louis Borloo. L'ancien ministre de l'écologie a quitté le gouvernement en novembre dernier et prend depuis ses distances avec l'UMP. Invité de France Inter à 13h, Dominique Payet, secrétaire national à l'UMP et de sensibilité radicale, s'est dit extrêmement peiné par les propos de Nicolas Sarkozy. Rien n'est pire que le déni de la réalité et quand on veut s'en sortir, il faut compter sur ses amis, a-t-il ajouté. Le débat s'envenime notamment autour des questions liées à l'islam et à la laïcité. Pour Nicolas Sarkozy, le colloque sur ces thèmes organisé par l'UMP le 5 avril doit avoir lieu. Ce matin, le porte-parole du gouvernement, François Baroin, avait souhaité que l'on y mette un terme et que l'UMP se recentre sur des valeurs profondément républicaines. Selon les dirigeants de l'UMP, c'est un malentendu et ses propos vont être rectifiés. Les Égyptiens voteront pour élire leurs députés en septembre prochain. Ce seront les premières élections depuis la chute du président Hosni Moubarak le 11 février dernier. La date de la présidentielle n'est en revanche pas encore fixée. Par ailleurs, l'ancien président égyptien et sa famille sont en résidence surveillée en Égypte, indique le Conseil suprême des forces armées. Aux dernières nouvelles, Hosni Moubarak se trouve toujours à Sharm el-Cheikh, sur les bords de la mer Rouge. Il n'est donc pas parti pour l'Arabie Saoudite, contrairement à ce qu'affirme la rumeur en Égypte. Et en Syrie, l'état d'urgence devrait être levé très vite. C'est en tout cas ce qu'avaient annoncé les autorités syriennes hier. Le président Bachar el-Assad doit s'exprimer bientôt. Mais à Deraa, l'épicentre de la contestation dans le sud du pays, la répression continue. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur plusieurs centaines de manifestants. Les rebelles libyens reprennent leur avancée vers Sirte. Ils étaient bloqués depuis ce matin par les force loyale à Muammar Kadhafi. Ils sont désormais à une centaine de kilomètres de la ville natale du leader libyen. De son côté, l'armée libyenne, fidèle au régime, annonce avoir pris le contrôle d'une partie de Misrata, la seule grande ville de l'ouest du pays, qui était jusqu'à présent aux mains des insurgés. Silvio Berlusconi, devant un tribunal, c'était ce matin à Milan, le chef du gouvernement italien s'est présenté en personne devant les juges. Cette audience préliminaire concernait l'un de ses procès, celui pour fraude fiscale et abus de confiance au sein de sa société de télévision Mediaset. À Rome, Xavier Sartre.
Silvio Berlusconi s'est contenté d'écouter pendant une heure et demie. Aucune déclaration lors de cette première audience au tribunal de Milan dans le procès Mediatrade. Ce n'était pas encore le moment. Cette première journée était en effet dédiée à des questions techniques et au résumé de toute la procédure. Le président du Conseil italien, serein selon son avocat, ne s'était pas montré dans un tribunal depuis près de 8 ans malgré les nombreuses affaires dans lesquelles il est impliqué. C'est dire l'événement, d'autant qu'il n'a cessé durant ces derniers mois de dénoncer ce qu'il considère comme du harcèlement de la part de juges qu'il définit comme communistes. Cela ne l'a pas empêché de serrer la main des juges et de saluer à sa sortie la foule venue l'acclamer. Prochain rendez-vous pour Silvio Berlusconi, le 4 avril. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
Enfin, à Fukushima au Japon, Greenpeace s'inquiète de la radioactivité autour de la centrale. Pour l'ONG de défense de l'environnement, la zone d'évacuation d'un rayon de 20 km n'est pas suffisante. Les niveaux de radioactivité nécessiteraient une évacuation plus large, selon Greenpeace. Sur le site, les ouvriers luttent toujours pour évacuer l'eau radioactive.
Demain, dans Service Public.
À l'occasion de la sortie du film « Nous, princesses de Clèves », un débat dans Service Public. Est-il utile d'étudier les classiques à l'école ? Posez vos questions, témoignez sur franceinter.com.
Service Public avec Isabelle Giordano, du lundi au vendredi à 10h. Une autre manière de vivre ensemble.
France Inter, partenaire du hors-série Télérama, consacré à l'énigmatique et inclassable Odilon Redon, à l'occasion de l'exposition aux Galeries Nationales du Grand Palais jusqu'au 20 juin. Odilon Redon au Grand Palais, un hors-série Télérama à lire en ce moment et à retrouver dans les émissions de France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
16h04, l'heure de votre rendez-vous avec Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je vous entraîne en Espagne si vous voulez bien pour commencer avec un maître, violoniste, compositeur, chef d'orchestre, proche d'Isaac Albéniz avec lequel il a joué du quatuor et Enrique Fernandez Arbos a composé pas mal de pièces évidemment inspirées par la musique de son pays, la musique populaire. Les trois pièces originales en style espagnol portent le numéro d'opus 1, c'est-à-dire c'était vraiment le tout début de sa production et là il nous fait une petite leçon en ce qui concerne les danses, par exemple le boléro, évidemment nous on connaît le boléro de Ravel mais c'est un type un peu particulier. Sinon, c'est une danse de rythme ternaire, de mouvement modéré, accompagné souvent par les castagnettes et chanté. Enfin bon, on peut en faire beaucoup de choses différentes. Pour preuve, ce boléro d'Arbos. We'll be right back. Boléro tiré des trois pièces originales en style espagnol d'Enrique Fernández Arbós et interprété par le trio Bellas Artes. Voici du même auteur, Arbós. Maintenant, une habanera. La habanera, si on lit strictement la définition, c'est une danse cubaine d'origine espagnole, proche du tango, avec ce rythme que je vais vous chanter, tam talim, tam tam, que vous reconnaissez bien sûr. C'est le début de la fameuse habanera de Carmen de Bizet. Donc Bizet l'a utilisé, l'a illustré, mais aussi Maurice Ravel, Claude Debussy ou Isaac Albéniz.